Top, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est tout pile 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'instant
c'est
M.
Énorme, ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Mais qu'il nous paraît loin le temps du porno chic et loin aussi le temps des campagnes avec des femmes tout seins et toutes fesses dehors pour vanter de belles bagnoles. Et pourtant, les stéréotypes persistent. Le CSA vient pour la première fois de pointer, de cribler et d'analyser 2000 réclames diffusées avant 20h sur les 24 chaînes de télévision gratuites. Le constat n'est pas si caricatural que dans les années 80, non. Mais il reste du chemin à parcourir. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel convoque les publicitaires pour que l'image de la femme et aussi la représentation des relations hommes-femmes changent une fois pour toutes.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Sylvie-Pierre Brossolette.
Bonjour.
Vous êtes membre du CSA, vous êtes en charge du droit et de l'image des femmes. On va en parler bien entendu tout au long de cette émission. Mais avant d'y venir, Sylvie-Pierre Brossolette, sommes-nous, et je vous pose la question à vous, puisque vous êtes mon invité aujourd'hui, sommes-nous, selon les propos du président de la République, une honte? Nous qui travaillons d'arrache-pied à France Inter, Info, Culture, Musique, Bleu, Move, nous, les orchestres et la maîtrise de Radio France, nous, RFI, nous, France 24 aux quatre coins du monde, nous, Arte, nous, France 5, nous, France 3 partout en région, nous, France 2 qui ferraillons pour maintenir la politique, l'investigation et le grand reportage en prime time, nous, documentaristes, créateurs de films d'animation, nous, cinéastes français portant très haut le 7e art grâce au fond de la télé publique, nous, l'audiovisuel public, sommes-nous une honte ?
Je vais peut-être vous décevoir, mais malgré toute la sympathie que j'ai pour vous, je suis obligée de vous dire que ce n'est pas notre rôle de commenter les propos du président de la République, et encore moins lorsque ce sont des propos rapportés et en partie infirmés.
Voilà, propos tenus quand même devant 70 personnes réunies à l'Élysée, donc qui font relativement peu doute, malgré des allers-retours entre les fuites de l'Express et voilà. Bien entendu, nous sommes à la veille d'une réforme, peut-être d'un Big Bang, comme on l'écrit dans la presse, et d'un vaste plan d'économie. Là, il n'y a pas de peut-être, on en est sûr. Mais vous mesurez quand même la violence et l'humiliation qu'il y a dans ce mot « honte ».
Écoutez, je ne peux pas commenter les propos du président de la République.
Bon, eh bien, au moins, je vous les aurais soumis. Iris Bray, notre chroniqueuse. Bonjour Iris.
Bonjour Sonia.
La couverture du Times aux États-Unis, personnalité de l'année, hein, c'est un marronnier en ce mois de décembre. Eh bien, ce n'est pas une, mais ce sont toutes les femmes qui brisent le silence. Le Time n'est pas un journal féministe, loin de là, c'est un journal tout court. Alors elle est où, la presse féministe, aujourd'hui ?
Et pour cela, je vais vous raconter une histoire d'il y a pile 120 ans. Décembre 1897, sort La Fronde, le premier quotidien féministe exclusivement réalisé par des femmes. C'est elles qui écrivent, typographient, impriment et distribuent. La créatrice de La Fronde, Marguerite Durand, s'est battue pendant 6 années pour qu'un quotidien généraliste qui parlait autant de politique, de finance, que de théâtre ou d'éducation, menée par une équipe 100% féminine, existe. Une idée qui paraît aujourd'hui totalement utopique dans une société française qui se refuse à penser l'importance de la non-mixité.
Bon, qui s'est battue aussi pour la mixité, on est d'accord.
Oui, oui, mais je pense qu'on a beaucoup de mal en France à laisser des espaces pour que les minorités se parlent entre elles et créent entre elles pour justement arriver à de la non-mixité, à ce que tout le monde se mélange. Mais c'est important de passer par là.
Bon, alors Marguerite Durand laisse son nom à une bibliothèque dans le 13e arrondissement de Paris. Une bibliothèque qui a failli être déplacée, en fait, pour intégrer le fonds d'une bibliothèque historique de la ville.
Oui, elle a été sauvée in extremis ce mois-ci grâce à de multiples manifestations pour que ce fonds d'archives féministes, on parle de plus de 40 000 livres, ne se retrouve pas au placard. Parce qu'en France, la presse féministe d'avant et d'aujourd'hui continue à être en danger. Un seul magazine papier se revendique féministe aujourd'hui, Cosette depuis 2009, un mensuel en perte de vitesse qui demande ce mois-ci à ses lecteurs et lectrices des dons pour survivre.
Alors elle est où, la presse féministe? Les médias féministes, ils sont où?
Eh bien, pas dans notre presse généraliste. Les journalistes féministes s'expriment principalement sur de nouvelles plateformes comme les podcasts, je pense à La Poudre, Quad Meuf, mais aussi des newsletters comme Les Glorieuses ou encore des pure players comme Chic Magazine. Une lancée influencée par le succès des modèles américains, mais une différence reste à souligner. Aux États-Unis, réfléchir au féminisme et au genre n'est plus réservé aux médias de niche. Le 31 octobre dernier, le New York Times a créé un nouveau poste, celui de Gender Editor.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gender Editor ?
Eh bien, c'est rédactrice en chef genre. Le poste, c'est Jessica Bennett, l'auteur de...
Rédactrice en chef genre ?
Oui, c'est génial. J'attends que Le Monde ou Libération y réfléchissent. Là, c'est Jessica Bennett, donc l'auteur de Feminist Fight Club, qui l'a décroché. Mm-hmm. Elle doit, avec 16 journalistes en dessous d'elle, qui viennent tous de plusieurs rubriques, s'assurer que le journal réfléchisse aux problématiques de genre dans leur globalité. C'est-à-dire que les articles sur les femmes, le féminisme ou le genre ne sont plus relégués à une seule page dédiée à ces thématiques. Non, le New York Times, lui, comprend que c'est un enjeu majeur qui touche tous les secteurs de son canard. Alors, en France, oui, nous avons besoin que les médias féministes résistent, mais on a surtout besoin de journalistes féministes dans les médias généralistes.
Et ben voilà une prise de position. Merci Iris.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Vous avez aimé la ménagère dévouée des années 50.
Je n'avais jamais vu auparavant des coloris si éclatants et un blanc si éblouissant.
Vous avez admiré la ménagère équipée des années 60.
Voulez-vous que je vous présente une femme heureuse ? Eh bien, regardez-moi. Je me suis équipée avec les derniers appareils Brandt. Ils font tout pour moi.
Vous avez été ému par la femme soumise des années 70.
C'est froid, ça. Je te signale que c'est froid.
J'ai pillé pas mal.
Fondage.
Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80.
Avec Laurence, c'était des petits plats préparés avec amour.
Vous avez été troublé par la femme objet des années 90.
Sachez que cette femme attachante est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX.
Vous allez adorer la femme d'aujourd'hui. Quand elle mange un yaourt, elle prend son pied.
Allez, concours d'extase jusqu'à l'orgasme quand on mange un yaourt, nous les femmes, c'est bien connu. Sylvie-Pierre Brossolette, et les hommes, ils jouissent quand ils mangent des chocolats de Noël?
Ça n'est pas dit dans les publicités.
Oui, mais quand même, vous avez une opinion là-dessus?
Ce n'est pas mon sujet du jour.
Alors, ce n'est pas votre sujet du jour, mais quand même, je rappelle que vous êtes membre du CSA en charge des questions de l'image et du droit des femmes. Pendant que le président de la République nous tape dessus à bras raccourcis, le CSA continue de travailler. Pour la première fois, nous n'allons pas parler ce matin d'affichage, ni de presse, magazine, mais de publicité télévisée, car vous avez analysé 2000 spots diffusés avant 20h sur les 24 chaînes gratuites. Pourquoi est-ce une première ?
Parce que nous avons eu une nouvelle compétence au CSA. En janvier 2017, la loi nous a chargé de veiller à l'image des femmes dans les publicités audiovisuelles. Nous avons donc appliqué notre méthode habituelle. Une nouvelle compétence, un constat des lieux,
oui,
pour savoir de quoi on parle. Donc nous avons fait cette étude, puis dialogue avec le milieu concerné pour voir comment on peut progresser. Et à l'occasion de cette étude, qu'on a fait sur 6 mois, 2000 spots, comme vous avez dit, examinés à des heures de grande écoute. Donc c'est vraiment les spots qui marquent le plus les mentalités. Ouais. C'est en ça que c'est important.
Ouais.
Nous avons constaté des stéréotypes, des clichés encore très, très prégnants, malgré des progrès par rapport aux pubs d'il y a 20 ans. Bien sûr qu'il y a eu des progrès.
Je vous fais écouter un petit spot Volvic, Sylvie-Pierre Brossolette.
Ok, ton vol est en retard. Réveille et libère ton volcan. La reine du shopping est toujours à l'heure. Volvic Juicy, réveille ton volcan.
Il y a à peu près tout dans ce spot publicitaire, Sylvie-Pierre Brossolette. Il n'y a rien d'humiliant ou de dégradant. Il y a simplement une voix off masculine qui tutoie une femme et qui s'imagine que le dynamisme de la femme, il est dans le shopping, évidemment. Voilà, ce qui est très intéressant dans ce que vous pointez dans cette étude, je précise qu'elle est à disposition de nous tous sur le site du CSA, c'est que vous montrez bien que les hommes sont davantage mis en scène dans la publicité alors que les femmes sont davantage ciblées, que les femmes sont majoritaires dans les pubs pour des produits d'hygiène corporelle, de parfums, d'habillement, de loisirs, de santé. Forcément, on leur parle à elles. Ce qui est plus curieux, c'est que les hommes sont beaucoup plus présents dès qu'on parle d'argent, d'automobile, d'assurance bancaire, de technologie et de services, comme si nous, les femmes, on n'avait rien Nadir, en matière de banque ou de contrat d'assurance ?
Surtout que nous avons essayé sur chaque produit, chaque conclusion, de comparer ce qui est dans la pub et ce qui est dans la société grâce à des études de l'INED ou tout autre organisme. Et très souvent, les publicités sont en arrière de ce qui s'est passé dans la société. Par exemple, dans l'automobile, la moitié des conducteurs sont des conductrices et elles co-achètent les voitures avec leurs compagnons la plupart du temps. Et donc, d'ailleurs, il n'y a aucune raison que les publicités pour les automobiles soient monopolisées par les hommes, et puis pas complètement monopolisées par les hommes, parce qu'il y a toujours une femme en garniture.
Appelle une femme en garniture
et ça, c'est les rôles, parce que nous avons donc décortiqué non seulement effectivement les stéréotypes par produit, mais dans le rôle donné aux femmes dans chaque publicité. Alors, il y a le premier rôle de l'expert, le sachant, vous savez, celui qui vous explique pourquoi votre machine, madame, est cassée et que je vais vous la réparer. Il est en blouse blanche et pour donner, c'est la pauvre femme, elle est à quatre pattes dans le nez
de
sa machine. Bon. Et puis, ou alors, il y a carrément, non, ça c'est la femme consommatrice et qui demande de l'aide, mais il y a encore pire, c'est la femme juste adjuvante qui est là pour faire joli.
C'est la garniture.
La garniture pour attirer le futur acheteur.
Non, parce que
et
là,
ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. On a vu que les experts étaient seulement 18%, 82%, c'est des hommes, les experts, les sachants. C'est une image symbolique très importante. Comment voulez-vous que les petites filles, les petits garçons, ou même les hommes et les femmes qui regardent les pubs, qui voient que les gens qui savent, les gens qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut acheter, parce que la qualité, la technologie d'un produit est formidable, c'est que des hommes. Et les femmes, elles sont là pour aller acheter, ou au pire, pour se montrer à moitié dénudées.
À la moitié dénudées, parce que vous avez repéré, par exemple, les mises en scène de la sexualisation du corps nu. Et en effet, le deuxième secteur où on utilise le plus la sexualisation féminine, c'est l'automobile. Donc, la preuve que finalement, ça persiste. Hein. La jolie pépée associée carrosserie.
Il y en a même sur les capots d'avion, maintenant.
Ah bah voilà, formidable. Alors, une femme experte, je vous en fais découvrir une dans une campagne Habitat.
Comme tous les grands champions, Teddy Riner a un secret. Il a trouvé une literie à la hauteur de son sommeil. Teddy Riner a bien dormi. Pas de chance pour ses adversaires. Pour la déco, c'est sa femme qui gagne le combat. Elle a réalisé la chambre de leurs rêves chez Habitat.
Voilà, madame sait faire, puisque la déco, c'est son rayon.
C'est son rayon, et puis le lit encore plus. Vous voyez l'allusion. C'est vrai que c'est navrant, mais qu'on va changer les choses, on va essayer.
Avant d'y arriver, parce que vos compétences dépassent de très loin, hein, seulement le secteur de la publicité. Les experts en blouse blanche qui nous vendent Oral-B, autres dentifrices, etc., les prothèses auditives, les prothèses dentaires. Hein. Dès qu'on est dans le domaine scientifique, c'est toujours un homme avec des lunettes, la caution, hein, le sérieux, etc. Et la femme, comme vous dites, elle consomme. Mais en réalité, ça fait des années que vous bataillez là-dessus pour que des expertes femmes soient présentes aussi dans toutes les émissions de radio et sur les plateaux de télévision.
Absolument. Depuis que je suis au CSA et que le président Schramek m'a donné la responsabilité du droit des femmes, une loi est passée, qui a été promulguée le 4 août 2014, qui nous donne la responsabilité de veiller à l'image des femmes dans tous les programmes. Mmh. Et c'est vrai qu'on s'est lancé dans un grand combat, on s'est concerté avec les chaînes, avec la loi pour nous, et comme vous le savez, votre radio, comme tous les autres médias régulés par nous, nous déclare chaque année maintenant le nombre de femmes sur les antennes, et puis aussi qualitativement le degré de stéréotype des programmes. Et les expertes, c'était très très peu il y a 4 ans. Il y en avait entre 15 et 17%. Et grâce à notre action collective,
15 et 17% de femmes
maintenant,
présentes.
On atteint 25-30%, dans les meilleurs des cas, 35%. Et tout notre effort va consister à arriver à la parité dans quelques années. Voilà. Ça progresse, en tout cas, je me réjouis de ça. Et au coup par coup, en plus sur le plan qualitatif, parce que les publicités, c'est qualitatif aussi, hein, on fait de la quantification pour pouvoir négocier, mais on voit bien que les stéréotypes, c'est très subjectif. Aussi, nous régulons au coup par coup les comportements dégradants, les paroles déplacées. Nous sommes intervenus 17 fois jusqu'à ces derniers temps deux procédures de sanctions qui ont touché au portefeuille des chaînes.
Chaînes, parlons-en. C8, après des dérapages profondément sexistes et choquants qui vous ont valu beaucoup de plaintes de téléspectateurs sur le plateau de Cyril Hanouna.
Et je suis très heureuse que le Conseil d'État ait validé la mise en demeure qui a permis la procédure de sanctions ensuite, parce que vous savez, quand il y a un manquement réitéré sur le même fondement, on va à la procédure de sanctions. Et donc, on voit que l'action du CSA est efficace quand on nous signale, quand nous-mêmes nous voyons des manquements à l'image des femmes. La loi a permis cela et nous l'utilisons.
Alors justement, là nous ne sommes pas dans le domaine de la loi et c'est important, Sylvie-Pierre Brossolette. La publicité en France, elle s'autorégule depuis très longtemps avec une efficacité indéniable. L'ARPP qui réunit des annonceurs, des marques, des publicitaires, des acheteurs d'espaces publicitaires visionne tous les spots avant qu'ils soient diffusés à la télé et met un avis. Si l'avis est défavorable, c'est très rare qu'une agence de pub ou une chaîne de télé y déroge. Par ailleurs, l'ARPP se saisit et pointe en nommant ceux qui y dérogent au code de déontologie publicitaire. Et les codes de la déontologie publicitaire, ils sont extrêmement contraignants. Vous reconnaissez quand même qu'un pas énorme a été franchi depuis les années 80. Aujourd'hui, on ne voit plus rien de directement humiliant ou directement dégradant à la télévision.
Non, je suis d'accord. Il y a eu un énorme effort. L'ARPP joue un rôle important. Et d'ailleurs, à notre demande, elle a ajouté le mot sexisme dans sa recommandation. Oui. Avant, c'était la dignité humaine en général. Et là, ils ont été d'accord pour mettre le mot sexisme. Simplement, ils s'attaquent plus au sexisme complètement dégradant, comme vous venez de le dire, aux images intolérables de traitement de femmes. Nous, notre approche du jugement de la publicité était un petit peu plus fin, si je puis dire. Nous sommes entrés pour voir quel rôle on donnait aux femmes. Ça n'est pas dégradant d'être une consommatrice, mais c'est un stéréotype, c'est un cliché. Et c'est ça qu'il faut quand même combattre. Et vous voyez, même le président de la République, là je peux le citer, a dit l'autre jour, la puissance publique interpelle solennellement les publicitaires sur leur usage de la représentation et la place des femmes. C'est un combat culturel. C'est pas juste les images les plus dégradantes, c'est tous les rôles que l'on donne aux femmes.
Mais je pense que la précision est vraiment très très importante.
Et c'est
si on veut faire avancer toute la société, on n'est pas seulement dans le cliché violent ou humiliant, on est aussi dans le rôle que chacun remplit à l'écran. Et c'est là que ça fait tout bouger. Vous avez réuni les publicitaires et vous avez obtenu, Sylvie-Pierre Brossolette, un accord qui fait date.
Voilà. Alors, je suis très heureuse parce que cette méthode qui consiste à faire un constat, où nous avons donc fait le constat que les rôles donnés dans les publicités aux femmes étaient encore terriblement stéréotypés. Nous avons réuni au CSA l'Union des annonceurs, l'Association des agences, le syndicat de la publicité et la télévision, la RPP. On a tous discuté. Et à l'issue de la réunion, il a été décidé que nous allions travailler à une charte d'engagement des annonceurs, des agences de publicité, pour arriver à un progrès qui sera évalué à la fin de l'année prochaine. Quelle technique ? Une auto-évaluation des annonceurs sur les publicités que leurs marques vont mettre à l'écran.
Et c'est vous qui définissez les critères.
Et nous participons au CSA à l'élaboration de ces grilles, parce que nous avons beaucoup l'habitude, nous l'avons fait pour le reste des programmes. Et je suis très contente de cette collaboration. 25 marques ont déjà accepté l'idée de se prêter à ce jeu. Donc j'espère beaucoup revenir l'année prochaine pour vous dire qu'un grand progrès aura été fait et encore plus vite pour vous dire que cette charte d'engagement aura été signée.
Mais vous reviendrez l'année prochaine, progrès ou pas progrès, de toute façon ce sera extrêmement intéressant de suivre tout cela. Merci beaucoup Sylvie-Pierre Brossolette. C'est la fin de l'émission et je suis très contente d'enchaîner avec Ali Rebéi. Salut Ali.
Bonjour Céline de Villers.
Parce que nos deux émissions aujourd'hui coïncident parfaitement.
Exactement.
C'est la journée de la jupe.
Exactement. Comment la robe a peu à peu libéré le mouvement des femmes. Nous recevons le grand historien Georges Vigarello qui nous propose une histoire culturelle de la robe. Vous pouvez
donc
témoigner.
C'est du mouvement physique.
Mouvement physique, mais qui a permis aussi d'accéder à certains emplois. Quand les robes se décorsettent, eh ben forcément, on peut accéder à certains emplois. Mais ça, c'est une longue histoire qu'on va essayer de vous raconter ce matin. 01 45 24 7000.